tout un monde.
Marie-Hélène Freixé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir, nous regardons aujourd'hui du côté de la Birmanie, à la croisée des destins. Nous sommes en compagnie de la journaliste Sylvie Brieux, qui publie « Birmanie, les chemins de la liberté » aux éditions Albin Michel. Birmanie, alias le Myanmar, sort peu à peu d'un demi-siècle de dictature militaire et de terreur. Le 8 novembre dernier, avec la victoire électorale du parti Aung San Suu Kyi, c'est une nouvelle ère qui s'ouvrait pour la Birmanie, mais sur le terrain, dans ce pays profondément divisé en groupes ethniques, ce pays paradoxal où le bouddhisme se marie curieusement à l'intolérance la plus extrême, Sylvie Brieux a vu autre chose que ce que voient habituellement les journalistes conviés à des voyages de presse. Il y en a quelques-uns, voyages très encadrés, notamment par les sociétés pétrolières et les agences de tourisme. C'est un voyage en indépendante que vous avez fait, Sylvie Brieux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous-même grand reporter et ça a été un attachement très progressif à ce pays qui vous a poussé à revenir plusieurs fois, puisque au départ vous regardiez plutôt du côté des Amériques. Comme grand reporter pour certains magazines.
J'ai longuement séjourné en immersion chez les Amérindiens en Amérique du Nord et du Sud. Et mon travail depuis maintenant presque 20 ans s'attache à médiatiser des voix minoritaires un peu partout dans le monde afin d'exposer le public à d'autres visions, d'autres regards et d'autres réalités. Et j'ai eu une première approche de la Birmanie lorsque j'ai entendu parler d'un forum de femmes qui s'y déroulait. Alors que la Birmanie était en train de traverser une phase charnière de son histoire, puisque au sortir de 50 ans de dictature, le pays commençait à s'ouvrir, avec à sa tête un ex-général qui avait été élu à la tête du pays lors de l'élection controversée en 2010. Et ce forum m'a permis d'avoir une certaine approche de la Birmanie. Et il est vrai que progressivement, je me suis attachée à ce pays et progressivement, j'ai cherché à pénétrer un peu plus profond dans sa dimension humaine.
Donc ça n'a pas été planifié au départ?
Non, au départ c'était juste l'opportunité d'aller à un forum, parce que je m'intéressais beaucoup dans le cadre de mon travail aux voix des femmes notamment, qui étaient encore moins représentées sur la scène médiatique internationale que celle des hommes. Et l'occasion d'assister à ce forum qui était présidé par Aung San Suu Kyi m'a permis d'avoir une vision de la réalité de ce pays que je n'avais pas vu traiter dans la presse ni dans les livres, puisqu'il y a une absence considérable, enfin il y a un grand vide au niveau de la littérature sur la Birmanie et de la transition. Et je cherchais absolument à me documenter avant de partir sur les réalités auxquelles étaient confrontées les populations de ce pays. Et je n'ai rien trouvé qui soit à dimension réellement humaine. J'ai trouvé beaucoup d'analyses politiques, mais pas de récits profondément humains. Et c'est ce qui m'a manqué.
Ce qui nous arrive comme écho à nous de Birmanie, c'est d'une part l'essor du tourisme. Donc on entend ici et là des gens qui reviennent, qui sont dans l'enchantement, un pays merveilleux, un pays bouddhiste avec des paysages magnifiques, une grande douceur. Et puis, bien entendu, il y a les intérêts aussi de certaines grandes sociétés, puisque c'est un pays qui a beaucoup de ressources, notamment pétrolières et minières. Alors, on a ces deux images et il se passe beaucoup de choses. On a vaguement entendu parler des problèmes ethniques, notamment les Karen, et puis là, on n'en entend plus parler. Et vous êtes allé en dehors des circuits fléchés, quoi.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma première approche du pays, lorsque j'ai commencé à découvrir ce pays, je me suis dit, ce pays est très compliqué et j'avais du mal à comprendre qu'on puisse avoir des positions très radicales et très tranchées sur une réalité qui m'apparaissait d'une extrême complexité. Donc, j'ai demandé aux personnes que je rencontrais au cours de mon premier séjour, je voulais essayer de comprendre, en tout cas de percevoir quelques aspects de la réalité. Et elles m'ont dit, si tu veux comprendre notre pays, fais d'abord le circuit classique, c'est-à-dire le circuit traditionnel que font la plupart des touristes lorsqu'ils viennent en Birmanie. Ce circuit traditionnel se situe en Birmanie centrale, donc il comprend essentiellement des lieux comme Bagan, Mandalay, Inle. Donc lorsqu'on en repart, on a une vision de la Birmanie qui est bouddhiste, bamar, de l'ethnie majoritaire, hein, puisque c'est là que se trouve le cœur des Bamars et des bouddhistes. Et en fait, ça m'a beaucoup troublée ce premier voyage parce que, à la lueur de tout ce que m'avaient raconté les femmes sur les guérillas dans les zones ethniques, sur la persécution d'une ethnie musulmane qui s'appelle les Rohingyas et qui est une ethnie en plus apatride, sur les viols dans les zones frontalières, je me retrouvais confrontée à une vision de la réalité qui n'était pas du tout celle qu'on m'avait racontée, à savoir une Birmanie à la fois romanesque, paisible et préservé entre guillemets, et authentique. Donc d'un côté, j'avais cette vision maîtrisée d'une Birmanie à l'image lisse, presque plastifiée, et de l'autre, j'avais les reliefs d'une Birmanie où la population souffrait de terribles violations des droits de l'homme. Donc ça m'a beaucoup troublée. Et pour moi, ce qui a provoqué un déclic et qui m'a poussée à aller un peu plus loin, c'est qu'au retour de mon premier voyage à l'aéroport, j'étais assise à côté d'un couple de touristes français. Et je leur demandais quelles étaient leurs premières impressions sur la Birmanie. Ils étaient absolument enchantés. Et ils m'ont dit, ce pays est formidable, les gens sont tellement souriants, et ce qui est vrai. Mais en même temps, je consultais les textos que je recevais sur mon portable. Et une activiste Kachin, donc les Kachin sont un peuple chrétien à majorité de l'État du Nord, s'excuser de ne pas avoir pu me rencontrer parce qu'elle devait s'occuper d'un bébé de 15 jours dont le père venait d'être assassiné par l'armée birmane et dont la maman se trouvait à l'hôpital. Et le contraste entre ces deux réalités était assez violent. Donc je suis rentrée en France et je me suis dit ou je laisse tomber parce que la réalité est trop complexe, ou je creuse. Mais si je creuse, est-ce que la médiatisation du combat de ces personnes que j'ai rencontrées ne va-t-elle pas leur nuire? Est-ce que ça peut être bénéfique ou est-ce que ça peut être nuisible? Première question. Et deuxième question, si j'y retourne, il faut qu'elles soient prêtes ou qu'ils soient prêts à m'ouvrir leur réseau, sinon je n'arriverai pas à creuser et à aller plus profond.
La croisée des destins. Nous sommes en compagnie de Sylvie Brieux qui vient d'effectuer 4 voyages longs en Birmanie, qui publie le récit de ses voyages, de cette enquête Birmanie, les chemins de la liberté. Alors là, justement, Sylvie Brieux, on utilise les sons que vous avez rapportés de là-bas. On est dans ce lac Inle, donc, qui est souvent une vision un peu édénique que rapportent les touristes.
Oui, absolument. C'est vrai que c'est un lieu qui invite à la flânerie par certains aspects. C'est un lieu qui peut être paisible, même s'il y a de plus en plus d'embarcations avec des moteurs chinois qui font un bruit de dynamite. Et là, la chanson qu'on vient d'entendre, en fait, ce son-là, je l'ai enregistré lors d'un mariage où j'ai été conviée par une famille sur le lac Inle. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un des points en fait touristiques les plus appréciés en Birmanie, ce lac Inle.
Il est particulièrement beau, enfin les abords sont magnifiques.
Oui, et puis moi ce qui m'a intéressée, parce que je suis moins sensible à la vision des paysages qu'aux actions des personnes qui œuvrent sur le terrain. Pour moi, la vision d'une lac Inle et la vision de l'état Chan où se trouve le lac Inle, c'est vraiment la partie qui m'a le plus émue, c'est de voir tous ces acteurs du changement ou ces actrices du changement qui œuvraient pour améliorer le sort de leur population. Parce que même si la Birmanie est en train de s'ouvrir au monde et en train d'attiser toutes les convoitises internationales, ça reste quand même l'un des pays les plus pauvres du monde. Et il y a sur place, notamment au lac Inle, deux jeunes femmes que j'ai rencontrées qui ont toutes les deux monté leurs hôtels, qui sont devenus des hôtels de charme et qui ont embarqué dans cette aventure la population locale pour permettre aux paysans du coin et aux villageois du coin de participer à cette entreprise et d'avoir des sources de revenus durables. Donc pour moi, la vision du lac Inle, c'est ça, c'est l'exploitation des richesses qui en est faite par la population, qui essaie de s'en sortir, mais de manière solidaire, donc s'en sortir ensemble.
Et rôle particulier des femmes alors qui...
Les femmes ont un rôle très très important. Alors c'est vrai que dans beaucoup de pays, elles jouent un rôle important, mais comme la Birmanie est un pays qui a l'air de redémarrer à zéro parce qu'il a été complètement fermé et asphyxié, verrouillé pendant 50 ans de dictature militaire, on voit les femmes émerger et embrasser des problématiques contemporaine à dimension universelle d'ailleurs, puisque les femmes sont en train de lutter contre la pauvreté, elles luttent pour l'égalité des genres, elles luttent contre la montée des intégrismes, donc en particulier de l'intégrisme bouddhiste, nationaliste, et elles luttent pour l'éducation également, parce que dans ce pays, l'absence d'éducation ou les déficiences de l'éducation nationale représentent un véritable problème.
Alors ce pays est très fragmenté ethniquement, on en a de loin une vision assez parcellaire, on ne parle pas beaucoup dans les médias de la Birmanie, mais on apprend en vous lisant que pratiquement la moitié du pays est constituée d'ethnies, mais incroyablement fragmentées. Il y a des grands groupes à l'intérieur desquels il y a des groupes eux-mêmes extrêmement fragmentés, c'est un pays mosaïque.
Oui, absolument. Donc officiellement, le gouvernement recense 135 ethnies, qui ne se reconnaissent pas toutes d'ailleurs dans les appellations qui leur sont données. Donc il y a de grands groupes ethniques qui sont divisés en sous-groupes. Mais
Alors on apprend quand même qu'il y a 12 millions de carènes, c'est énorme.
Alors il faut faire attention avec les chiffres en Birmanie, parce que les chiffres peuvent être source de manipulation. D'un autre côté, il n'y a aucun recensement qui est livré ses sources jusqu'à présent, recensement récent, concernant les groupes ethniques. Le dernier recensement qui a été extrêmement controversé parce qu'il a contribué à alimenter des antagonismes religieux et ethniques est celui qui a été mené en 2014. Et il a donné lieu à des débats entre les ethnies et le gouvernement, ces ethnies ne se reconnaissant pas dans les appellations qui étaient données de leur groupe ethnique. Par exemple, les Kachines disent que le terme Kachine est une identité politique, mais au sein des Kachines, il y a des identités culturelles. Donc les gens se reconnaîtront tous dans l'identité politique Kachine qui va fédérer le groupe autour de cette identité politique et qui va lui permettre de revendiquer des droits. Mais les identités culturelles sont multiples. Au sein des Kachines, on trouve des Lissous, on trouve des Jingpo, on trouve...
Ce sont des groupes différents linguistiquement, par
absolument.
Exemple, ils ne parlent pas du tout la même langue.
Non, mais par exemple, les Jingpo sont la langue majoritaire. Donc je demandais à un ami Kachine, dont le nom chrétien est Luc, et il me disait, je lui disais, mais en quelle langue tu parles avec Marie, par exemple? Il me dit, avec Marie, je parle le Jingpo, parce qu'en fait, Marie, elle est Jingpo. Mais comment tu sais qu'elle est Jingpo? Parce qu'en fait, son nom, en Kachine, son nom, voilà, tu vois, et c'est Jingpo. Mais sinon, avec une telle, je parle le Lissou.
Donc c'est une société très très fragmentée, dans laquelle il y a quand même une langue véhiculaire, une langue que tout le monde parle ou pas du tout?
Chez les Kachines, je pense que d'après ce que j'ai compris, la plupart parlent Jingpo, mais par exemple chez les Chines, il y a tellement de langues. Donc les Chines sont la minorité ethnique qui vit à l'ouest du pays et dont l'État est frontalier de l'Inde. Les Chines, par exemple, me disent que parfois il faut qu'ils parlent en birman, donc la langue de l'ethnie majoritaire Bamar, pour pouvoir se comprendre entre eux. parce que les langues sont trop différentes au niveau linguistique.
La croisée des destins, nous sommes en compagnie de Sylvie Brieux qui a effectué 4 longues enquêtes à travers la Birmanie et qui les publie dans Birmanie, les chemins de la liberté. On entend vos sons, là, Sylvie Brieux. Il s'agit de nonnes. Donc, c'est quoi ? Ce sont des mantras bouddhistes ?
En fait, c'était le son a été enregistré dans un monastère de nonnes à Mandalay. Et c'était juste avant, c'était une prière juste avant le repas. Voilà, et donc on peut se rendre dans ce monastère à ce moment particulier de la journée. Et donc là, elles prient juste avant de prendre leur repas quotidien, qui est le dernier repas de la journée, donc c'est un peu avant midi.
Alors, vous êtes arrivé à un moment clé de la Birmanie, qui a été quand même une société d'une très grande brutalité pendant un demi-siècle, avec des guerres dont on entendait parler de temps en temps, notamment la révolte des Karen, et avec un état à peu près de paix aujourd'hui. Mais ce qu'on comprend à travers votre enquête, c'est que le feu couve.
Oui, en fait, l'enjeu majeur maintenant pour le nouveau gouvernement qui rentrait en fonction en avril 2016, qui est un gouvernement aux couleurs de la LND, donc la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Ce parti a été propulsé à la tête du gouvernement. Aung San Suu Kyi elle-même ne pouvant être élue présidente, puisque un article de la constitution de 2008, qui est une constitution héritée de la junte, l'en empêche. Donc on dit qu'il a été écrit spécialement, rédigé en tout cas spécialement pour elle, puisqu'il stipule que toute personne ayant des enfants de nationalité étrangère, ce qui est son cas puisqu'elle était mariée à un Britannique et que ses enfants ont la nationalité britannique, eh bien toute personne ayant des enfants de nationalité étrangère ne peut prétendre au poste de président. Donc Aung San Suu Kyi a appelé la population à voter pour son parti, qui l'incarne. Et il y a eu un raz-de-marée électoral en novembre 2015, lorsque se sont tenues les premières élections démocratiques, les premières élections libres depuis 50 ans. Son parti a raflé près de 80% des suffrages. Aung San Suu Kyi a déclaré qu'elle ne serait pas présidente, mais qu'elle gouvernerait au-dessus du président. Et c'est ce qu'elle a réussi pour l'instant à faire, puisque c'est un proche d'Aung San Suu Kyi qui a été nommé président de la République, un ami d'enfance qui s'appelle Thinh Cho, qui a été élu le 15 mars 2016. Et pendant tout ce temps, entre mars et, enfin en tout cas depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, elle est obligée de négocier avec les militaires, puisque les militaires, dans la constitution de 2008, s'octroient d'office 3 postes ministériels, le ministère de la Défense, de l'Intérieur et des Frontières, ainsi qu'un poste de vice-président et 25% des sièges au Parlement. Donc autrement dit, le pays est en voie de démocratisation, mais certains postes sont toujours verrouillés et pour pouvoir gouverner, la LND doit donc négocier avec les militaires. Ce qui signifie qu'on est loin d'être dans un pays qui est stable et l'enjeu majeur pour les décennies qui viennent va être d'assurer la paix et la réconciliation. Et ça va être très compliqué, même s'il y a évidemment des espoirs, même si beaucoup de gens se mobilisent sur le terrain pour œuvrer par-delà les divisions ethniques et religieuses et pour pouvoir assurer un futur de paix à la Birmanie. Mais il faut dire que les voies de la haine sont toujours très présentes, hein, et que les guérillas les guérillas sont toujours présentes, notamment dans l'État Kachin et dans l'État Shan du Nord. Et
alors, terrain, c'est là où vous êtes allé, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans les grandes idées géopolitiques, on est sur le terrain, on rencontre des gens, on rencontre des associations et on rencontre beaucoup d'organismes religieux, notamment parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un rôle très très important des religions, notamment des églises chrétiennes qui sont catholiques mais qui sont évangéliques et aussi. Et il semblerait d'ailleurs que les missions évangéliques jouent un rôle quand même assez positif, rassembleuse dans certains cas, parce que souvent on dit que ce sont des entreprises d'aliénation. Alors comment vous avez vécu par exemple sur le terrain cette présence chrétienne dans un pays quand même forme de bouddhisme intolérante qui refuse, et on va en parler tout à l'heure, les musulmans et les chrétiens, enfin qui les minorisent.
Oui, alors c'est vrai que tous les bouddhistes ne sont pas extrémistes, mais le problème de la violence, c'est que les voix de la violence, elles résonnent toujours plus fort que celles de la paix. Pour une raison simple, c'est qu'en Birmanie, tous les acteurs de paix, en tout cas la plupart, sont menacés de mort. Donc c'est vrai qu'ils œuvrent dans la discrétion, ils font un réel travail d'orfèvre pour essayer de transformer les mentalités. Parce que pour comprendre ce qui se passe, il faut savoir qu'en Birmanie, être birman, c'est être de l'ethnie majoritaire bamar et être bouddhiste.
N'est pas forcément majoritaire sur le plan de pourcentage de population. C'est 50. Les bamar, c'est la moitié finalement.
Les bamar, on pense que c'est la majorité, mais c'est toujours pareil. En l'absence de statistiques officielles récentes, on ne peut pas se prononcer.
C'est à peine la moitié.
Mais d'après les experts, c'est les trois quarts.
Ah, quand même, ouais.
D'après les experts, c'est les trois quarts, mais sur quelles statistiques se base-t-on, j'en sais rien. Mmh. Voilà. Donc, moi, en l'absence de sources fiables, je peux pas me prononcer là-dessus, mais c'est vrai que d'après certains experts, ils seraient aux trois quarts. Après, puisque le bouddhisme est une religion d'État, c'est toujours difficile à évaluer. Et puis, à partir du moment où vous déclarez non bouddhiste et non bamar, vous êtes discriminé. Donc,
et discriminé de quelle manière?
Discriminé au niveau des postes administratifs qui vont vous être réservés, au niveau d'accès, certains disent, dans les universités, à tout niveau. Voilà. Donc, les églises chrétiennes jouent, pour ce que j'ai pu constater, un rôle extrêmement important dans au moins deux États. C'est l'État Chine, qui est majoritairement chrétien et qui se trouve à l'ouest du pays, et l'État Kachin, qui se trouve au nord du pays. Donc l'un est frontalier avec l'Inde et l'autre est frontalier avec la Chine. Et je n'ai pas fréquenté d'église évangélique, mais celles qui dominent, en tout cas, ce sont les églises baptistes, qui ne sont pas, à mon sens, à dimension évangélique.
Qui sont d'origine américaine ?
Qui sont d'origine américaine. En fait, le protestantisme a été introduit dans l'État Chine à la fin du 19e siècle par un révérend et sa femme qui étaient originaires de l'Iowa. Et ils ont commencé par s'atteler aux problèmes de santé, aux problèmes de formation, tout en prêchant. Et puis, les catholiques envoyés par les missions étrangères de Paris ont essayé de s'implanter. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de conflit entre les protestants et les catholiques, ce qui a rendu l'implantation des catholiques plus difficile. Donc, ils ont fini par s'implanter en 1948, donc presque plus de 50 ans plus tard. Et puis, en 1966, le dictateur Ne Win a décidé d'expulser tous les missionnaires du pays parce qu'il les accusait de soutenir les mouvements de guérilla. Et donc ils ont été expulsés du pays, mais en fait l'évangélisation avait été suffisamment forte, avait suffisamment pénétré au sein des populations pour qu'un dynamisme chrétien et vivant subsiste et permette de servir de socle identitaire.
Voilà, ça sent vos sons, Sylvie Brieux. On est justement dans une sorte une ambiance de feu de camp chez les Tchines. Alors, il faut qu'on parle, parce que l'émission avance, il faut qu'on parle de la communauté musulmane, puisque on sait bien, on a entendu parler que c'est de très loin la plus discriminée. C'est une communauté traitée en général de Bengali. Ce sont des apatrides, vous nous disiez tout à l'heure.
Oui, alors c'est absolument, il faut absolument parler de ce peuple, de cette ethnie qu'on appelle les Rohingyas. Et les Rohingyas sont considérés par l'Organisation des Nations Unies comme l'une des minorités les plus persécutées au monde. Donc c'est dire la gravité de la situation, en tout cas la tragédie qu'ils sont en train de subir, puisque d'habitude l'ONU est plutôt mesurée dans ses jugements. Donc les Rohingyas, on en entend parler épisodiquement lorsque on s'aperçoit que certains essaient de fuir la tragédie qu'ils sont en train de subir parce qu'ils se noient dans des embarcations de fortune pour pouvoir rallier d'autres côtes, celles des pays frontaliers et dont ils sont souvent rejetés.
Et c'est Bangladesh.
Oui, Bangladesh, ils essaient de fuir juste pour pouvoir exister et pour pouvoir avoir des moyens de subsistance. Et donc ils sont parqués dans des camps, dans un état qu'on appelle l'Arakan, qui se trouve à l'ouest de la Birmanie, frontalier du Bangladesh.
Et qui est riche en matières premières.
Qui est riche en matières premières, qui est quand même le deuxième état le plus pauvre de Birmanie après l'état de Chine. Et dans cet état, depuis 2012, il y a de violents affrontements entre la communauté Rohingya et la communauté arakanaise bouddhiste. Apparemment, les affrontements ont eu lieu tout au long du XXe siècle, mais là, ça a été fortement médiatisé en 2012 parce que de véritables massacres ont eu lieu. Et surtout des déplacements de populations importants se sont produits.
Alors, dans votre livre Birmanie, Les chemins de la liberté, évidemment, vous énumérez tous ces lieux de crise de la Birmanie, mais en même temps, il se dégage de l'ambiance de cette enquête une perspective assez positive. C'est-à-dire, on a l'impression qu'à bas bruit, ce pays est quand même en train, à travers tout un réseau solidaire, associatif, et des résistances comme ça feutrées, sourdes, de bâtir quelque chose qui ressemble à un avenir à petits pas.
Oui, ce que j'ai trouvé porteur d'espoir, parce que c'est vrai qu'en voyant toute cette violence en Birmanie, je me suis attachée à rencontrer des semeurs de paix ou des gens qui étaient porteurs de solutions et plutôt porteurs de lumière au sein de situations très chaotiques. Et dans le camp des Rohingyas, j'ai rencontré une femme formidable qui s'appelle Wewenu, qui est une jeune femme qui a moins de 30 ans et qui a compris que pour que son peuple puisse s'en sortir, il fallait qu'elle construise des alliances avec d'autres femmes et d'autres hommes d'ethnie Kachin, d'ethnie Chine, d'ethnie Karen. Et elle a monté deux associations pour œuvrer pour la paix et pour éduquer les jeunes qui ont entre leurs mains réellement l'avenir du pays, pour les éduquer à la paix, pour les sensibiliser à la fraternité, par-delà toutes ces divisions.
Mais il y a place pour ce type d'initiative ?
Il y a place pour ce type d'initiative, mais Wewenu est menacée comme tous ces acteurs de paix. Donc elle est menacée, elle est extrêmement courageuse puisqu'elle a passé 7 ans, malgré les 7 ans qu'elle a passé en prison de l'âge de 18 ans à l'âge de 25 ans, elle a trouvé la force et le courage de se lancer dans cette lutte pour la paix. Et elle a lancé d'ailleurs une campagne sur internet qui s'appelle My Friend Campaign, donc mon ami, la campagne Mon Ami. Hashtag campagne mon ami, où elle incite les jeunes sur les réseaux sociaux à poster une photo de leurs amis et de dire moi je suis bouddhiste et bamar, mon ami est Rohingya et musulman, pour sensibiliser vraiment et puis pour éduquer à la paix. Donc ça, pour moi, c'est porteur d'espoir, alors qu'elle est issue d'une communauté très fortement discriminée, alors que c'est une femme, et elle était discriminée jusqu'à présent également au sein de sa communauté, qui était plutôt patriarcale, et elle arrive à bousculer comme ça les représentations du monde, à bousculer les mentalités en profondeur. Donc ça, c'est vraiment porteur de paix.
Les chemins de la liberté qui vient de paraître chez Albin Michel. C'est le récit de ces quatre voyages longs, en Birmanie que vous avez fait, Sylvie Brieux, avec tout de même une perspective positive. On peut se demander si justement le tourisme qui à nouveau est possible en Birmanie n'a pas un rôle à jouer comme témoin pour exiger que des choses avancent. Hein. Nous sommes, quand nous voyageons quelque part, nous sommes de fait complices de ce qui se passe dans ce pays. Merci Sylvie Brieux. Donc Tout un monde, c'est le magazine des cultures. À la prise de son se trouvait Alain Joubert, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armando Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissé. Sur France Culture, où vous attend Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.